Bonjour et bienvenue au One A
Attends, on
Club.
n'a pas réfléchi au fait à ce qu'on faisait comme qui.
C'est bon, j'ai trouvé.
Ah ok, d'accord. Bah, nous en parle pas, fais ton
Mais
émission
si,
tout
justement,
seul.
mais c'est. Tu vois. Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel en direct de la Isaac Cave. Isaac!
Consterné, ça marche pas en fait en radio.
Ouais, en radio, le consterné, ça marche pas.
Consterné, ça
C'est
marche
dingue.
pas. Voilà, je suis consterné, mais ça marche pas en radio.
Je suis Yohan Aipier, vous avez entendu la douce voix de Thio qui nous accompagne aujourd'hui. Isaac nous accueille chez lui.
Bonsoir.
C'est notre nouveau local de studio.
Comme si d'habitude j'étais pas là en fait.
Voilà. Ouais, oui, t'es toujours là.
Ben oui, c'est pour ça, donc du coup, la douce voix qui nous accompagne, style...
Non, mais c'est pour les nouveaux.
Invité surprise, quoi.
Allez. Et nous allons encore vous parler de bande dessinée pendant un temps indéterminé, mais sans doute long, car on a pas mal de retard BD à rattraper. On a décidé d'en faire un paquet cette fois-ci.
Quelle surprise.
Au programme, pas d'express, parce que j'ai pas eu le temps de passer dans les kiosques pour choper des trucs que j'ai en retard dans tous les sens. Par contre, on va vous parler...
Donc on est à la bourre, mais dans le doute, on prend encore un petit peu plus de retard. Hein.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est comme ça, on fera un express pack. Tu vois, on prend
un Sprex pack.
Alors bonjour, on a 4 kilos de comics. Allez hop, c'est bon, voilà, on le prend. C'était bien. Allez, ciao. 2 kilos, le troisième offert.
Nous allons parler d'Uzagi Yojimbo numéro 23, des derniers jours de Stefan Zweig, des tomes de The Boys numéro 13 et 14, puisqu'on a fait vraiment du retard, de Sur les bords du monde, de Seul numéro 7, des Fondus de la cuisine, et notre splash page qu'Isaac nous propose, hein, avec Sabine.
Comment ça, je la propose ?
Ouais, c'est toi.
Ah
c'est
bon ?
Toi le chef de la splash page aujourd'hui.
Merci de m'avertir. C'était écrit sur le programme depuis environ un bon mois.
Oui, tu sais, on devait l'enregistrer déjà il y a un moment.
Puis on devait l'enregistrer, il y a de ça à longtemps.
C'est pas grave, il y a une interview, t'es tranquille, t'as pas de boulot.
On est super organisé chez nous.
Voilà, on t'a pas prévenu, mais tu devrais t'en sortir.
Ouais, c'est pas parti.
Bon, on va éviter que cette émission dure 40 ans.
Dans les bacs.
Et tout de suite, on commence avec
Uzagi Yojimbo numéro 23
de Stan Sakai, toujours chez Paquet, et au prix de PA 31.
Voilà, environ 7 euros, je crois. Uzagi Yojimbo, donc on en a déjà parlé à nombreuses reprises, on avait fait une interview de Stan Sakai. La série continue à un rythme un petit peu plus rapide ces derniers temps chez Paquet. Et la série, je trouve, maintient une bonne forme et se bonifie. Dans ce tome. Nous allons suivre encore Uzagi qui est en train de errer un petit peu partout dans le Japon.
Bah, sans savoir vraiment où en fait. Mais
voilà, il erre, quoi, c'est le principe hein, quand on erre. Et va faire de nombreuses rencontres, etc., etc. On va retrouver beaucoup de personnages clés, dont, comment il s'appelle le démon qui fait peur
Le démon qui fait peur. Celui qui a des gros yeux et qui a un air diabolique.
Et surtout,
un démon, quoi.
Il va encore avoir un joli compagnon d'une jeune fille qui un peu lui force la main. Un peu.
Un peu.
Pour qu'elle accompagne.
Donc, et... Uzagi, c'est dans quel style, au fait ?
Alors, Uzagi, au niveau du genre, nous avons dit que c'était des pérégrinations japonaises. Car Uzagi continue à se balader. On est toujours d'un point de vue du dessin. Sur un style que je définis comme efficace. Je veux dire, j'ai pas trop d'autres mots. C'est du noir et blanc. C'est un format manga, même si aux États-Unis c'est publié au format américain et je crois même que c'est en couleur aux États-Unis. J'ai un doute chez Dark Horse.
Ce serait bon ça d'avoir en couleur.
Ouais, bah les couvertures, je sais pas. Faudrait qu'un jour je vérifie la version couleur pour voir. Et c'est toujours bourré, je dirais, de gros problèmes sur, enfin pour. Je parle du scénario, il y a toute la problématique de l'honneur qui revient souvent, des conflits d'honneur, à savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour être un bon samouraï, est-ce que je dois aider cette jeune fille qui demande que ça alors que ma vie est une vie de danger, que je vais forcément la mener probablement pas loin de la mort à plusieurs reprises.
Ouais, mais le petit côté romantique, je trouve, a bien ajouté dans celui-là.
Petit côté romantique, mais pas partagé. C'est ça qui... Enfin, c'est je sais pas. Tu penses qu'Ouzagi en pince un peu pour cette jeune fille?
Oui, et oui, justement, il y a de l'honneur qui fait que bah, il peut pas tout exprimer, quoi.
Et puis de temps en temps, quelques histoires aussi. Donc c'est des chapitres à l'américaine. Hein, il y a 22 ou 24 planches. De temps en temps, des chapitres où Ouzagi n'apparaît quasiment pas, où on s'intéresse aux personnages secondaires, à ce qu'ils vont faire, à ce que c'est que la vie dans le Japon médiéval. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit un Ouzagi très très mal en point dans ce tome-là. Et qui amène un chapitre vraiment génial de cauchemar du personnage qui est super classe. Graphiquement, justement, le Ouzagi maléfique, machin chose, j'ai trouvé ça génial. Ouais.
Je valide. Par contre, je rajouterais quand même, tu disais dans le style qu'il est, il est très classique par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Alors, souvenir ou pas des autres tomes, là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de grandes cases dedans. Avec des dessins d'Ouzagi en plein pied qui sont, je trouve, très jolis.
Ouais, un petit côté contemplatif.
Par rapport à d'habitude, je crois qu'il n'y avait pas, il y en avait moins que ça avant.
Il y a aussi des séries de cases silencieuses où il pose bien son action, il pose bien c'est Ouzagi. Il y a certaines cases panoramiques. Il y a des séries de cases panoramiques où on voit bien le paysage d'Ouzagi au milieu de rien. Moi, c'est une série que je suis toujours avec plaisir. Et si je ne l'ai pas passé en express justement cette fois-ci, parce qu'il y a un petit truc particulier dans ce tome-là, c'est qu'il y a le numéro 100, mais ce n'est pas le vrai numéro 100 de Ouzagi Yojimbo. Alors, pourquoi ce n'est pas le vrai numéro 100? Parce que Ouzagi Yojimbo a commencé chez un autre éditeur que Dark Horse, je crois que c'était Kitchen Sink, si je ne dis pas de bêtises, mais je dis sans doute une bêtise. On me corrigera probablement. Et dans ce tome-là, en fait, plein d'auteurs amis ont participé pour faire une petite histoire d'une sorte de remise de prix de numéro spécial à Stan Sakai. Et dans les auteurs, on a quand même du très beau monde. Alors pour les connus, on a Frank Miller qui fait une planche, on a Matt Wagner, on a Sergio Aragonés qui fait Gru, c'est une BD américaine qui cartonne pas mal et qui n'est pas très connue. C'est une sorte de parodie humoristique de Conan. On a Jeff Smith qui fait Bone, que j'adore. Guy Davis, qui est le dessinateur des zombies qui ont mangé le monde, et d'autres auteurs que je connais pas forcément ou qui sont un peu moins connus. Et ce qui est aussi quelque chose que ça m'a rappelé, c'est que Stan Sakai est aussi lettreur. Alors je suis pas sûr qu'on profite vraiment du lettrage de Stan Sakai dans la version française. Ce qui est dommage, parce que Stan Sakai a eu un Eisner Award pour le lettrage cette année. Il vient de le choper. Alors qu'il avait déjà eu un Eisner Award pour Ouzagi Yojimbo, etc.
Moi je dis monsieur.
Oui, bravo. Ouais. Vas-y, dis monsieur.
Monsieur.
Il a dit monsieur. Bravo.
Eh oui, non, le haut ne marche pas à la radio non plus, Mathieu.
Oh. Donc, pour le scénario, j'ai mis que c'était héroïque. On a vraiment un côté un peu héroïque, voire limite héroïque de désespéré parfois.
Romantique.
Ça, c'est le côté romantique qui t'a marqué.
Ouais.
Pourtant, il est vraiment en filigrane. Hein.
Ouais, mais ça, je trouve que c'était super. Ouais, c'était bien. Numéro 23 d'avoir une vraie romance.
Pourtant, elle est sous-entendue depuis un moment, la romance avec l'autre personnage, la jeune femme samouraï.
Elle n'est pas ouverte. C'est, voilà, là, c'est clairement. Elle veut flirter, quoi.
Là, il y a une possibilité. Oui, là, elle est. Oui, c'est-à-dire qu'avec l'autre personnage féminin, tous les deux, ils se cherchent, mais ils n'osent même pas s'avouer eux-mêmes qu'ils se cherchent. Là, la fille essaye vraiment de se brancher le samouraï, quoi. Encore un très bon tome. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce numéro spécial 100, qui part un peu en vrille, hein, parce que c'est un.
C'est un peu. C'est très déjanté, quand même. Voilà, ça part dans tous les sens. Les dessins. Ouais, voilà. Et,
il y a pas mal de private jokes aussi,
voilà,
je pense.
Et je pense qu'il y a beaucoup de blagues qui sont. Enfin, qui reste un peu en suspens parce que je ne les ai pas toutes comprises.
Alors, quoi. Moi, les anecdotes sur la personnalité de Stan Sakai, le fait qu'il soit vraiment toujours sympathique, toujours ouvert, ça m'a vraiment conforté dans l'impression que j'avais eue en le rencontrant à Angoulême. Le mec, vraiment prêt à rencontrer ses fans, il nous a fait un dessin alors que souvent les dédicaces des Américains sont une signature et ça ne va pas plus loin. Et ils font payer hein, quand ils font un dessin. Même les signatures, ils font payer les Américains dans leurs dédicaces. Ouais, ouais.
Juste une signature.
Oui, juste une signature. Pourquoi Bah, en fait, ils ont commencé à faire payer quand ils se sont rendu compte que un Spider-Man numéro 1 signé par Todd McFarlane, eh ben, ça devait coûter très très cher. Alors ils se sont dit, attendez, là, le fait que j'ai fait une signature à la con dessus, ça rend le produit encore plus cher. En gros, ils ont eu marre des spéculations et eux, ils ont réagi comme ça. En France, les auteurs n'ont pas encore réagi comme ça sur le marché des dédicaces, mais certains se disent qu'ils devraient le faire.
Oui. Ouais, enfin, je pense, ouais, c'est, oui,
c'est une question de culture, hein.
Non,
aussi.
Mais je le comprends, mais c'est vrai que ça, du coup, ça va être un peu dommage parce que les échanges que tu as avec les dessinateurs, justement, c'est un peu, c'est ça l'intérêt, quoi.
Voilà. Oui, non, mais t'as toujours l'échange, sauf que t'as payé pour l'avoir, donc ça fait un peu. Tu n'en penses pas moins. Les derniers jours de Stefan Zweig. Alors, les derniers jours de Stefan Zweig, c'est une bande dessinée.
Stefan Zweig.
Zweig, vas-y, comment tu dis ?
Stefan Zweig.
Zweig. Ok. De Sorel et Sekcik. Sekcik.
Vas-y, demande-lui, il a fait Teuton en.
Vas-y.
Sekcik.
Ouais, je crois que c'est un français.
Ça en doit être juif.
Oh ! Je vais encore devoir mettre le podcast en explicite.
Oh putain ! Merde !
Non, sur ces mots-là, ça va. vu où on enregistre, on a le droit de dire putain, je veux dire, c'est de la ponctuation, quoi.
Ouais, alors là, fais gaffe à tes fesses, toi.
Je crois que j'ai voulu dire un truc et qu'ils ont compris un autre, mais là, on file dans le private joke. Donc,
je sais pas si, comment il doit le prendre, parce que très honnêtement, il y a quand même beaucoup d'interprétations possibles.
Oui, bah alors, celle que je voulais donner, c'est du on est dans le sud et on utilise putain comme ponctuation. C'est ce que je voulais dire, pas plus.
Ok, putain.
Donc, c'est chez Casterman. C'est une adaptation d'un roman. Et c'est le scénariste lui-même qui a adapté son roman. Tout comme, par exemple, si tu te souviens, Kotias avait adapté son propre roman avec Nounastasia.
Et donc
et le truc, c'est que c'est une très très belle adaptation. Au niveau du genre, nous avons dit que c'était de la biopsie, biographie psychologique.
Voilà, biopsie en deux mots.
Oui. Biographie psychologique, c'est ce qu'on avait mis. Toi, t'as un doute, là, Thio ?
Si, on était d'accord avec Pierrick. Toi, ouais. T'étais peut-être pas d'accord, mais...
T'es en train de penser à autre chose. En gros, donc, l'histoire raconte les derniers jours de Stefan Zweig. c'est basé sur des faits réels. Qui, en gros, a quitté d'abord... c'était l'Autriche. Tchécoslovaquie. L'Autriche et Tchécoslovaquie. Parce qu'il y avait la montée du nazisme, qui est allé s'installer à Londres et qui a dû quitter Londres parce qu'il n'était pas forcément le bienvenu pour s'installer au Brésil.
Voilà, on se retrouve un petit peu dans une période où bon nombre d'auteurs d'Europe centrale ont fui la montée du nazisme, dans un premier temps pour certains en Angleterre, pour d'autres aux États-Unis, et souvent ils ont atterri en Amérique du Sud. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour Stefan Zweig dans cette BD. Et donc là, on est dans ces derniers jours. On nous raconte...
Attention, la géographie, oui, leçon de géographie de Thio. Vas-y, Thio.
Oui. Ils n'étaient pas encore à l'époque, effectivement. C'est République tchèque et Slovaquie séparée, on est d'accord. Merci, Thio, pour cette... La minute nécessaire et intéressante. Monsieur Cyclopède. Et donc voilà, on nous parle donc de ces derniers jours de Stefan Zweig. On est vraiment sur le versant psychologique, sur l'état d'esprit de cet auteur.
Qui vient d'arriver, donc est en exil, qui vient d'arriver au Brésil. Donc, on est dans un endroit qui sonne vraiment le côté très joyeux. Ça a l'air beau, ça a l'air superbe. La vie est belle au Brésil à l'époque, apparemment. Ça change de la vie en Europe à l'époque, qui était quand même une vie de guerre. En plus, Stefan Zweig est très très bien accueilli parce qu'il a écrit un roman qui parle de Rio en de très bons termes et qui a été un gros succès là-bas. Donc il a un accueil superbe.
Oui, il est accueilli à bras ouverts, un petit peu comme un héros national.
Et il arrive avec sa seconde femme, qui est aussi sa secrétaire, en gros, qui écrit sous sa dictée pour lui. Et là, on se rend compte que lui est quand même d'un esprit très mélancolique, très triste, et on suit sa mélancolie jusqu'au drame, qui n'est pas vraiment un mystère si on s'y connaît un peu en histoire, je ne crois pas trop spoiler. Ce qui est intéressant, c'est de montrer comment il y va, surtout que
Et du coup, Maître Capello revient en disant que non, quand il est parti, c'était la Tchécoslovaquie.
Ah, déjà.
Désolé, voilà. C'est... Voilà, il faut être précis, hein, on est jusque-là.
Au niveau du dessin, nous pouvons dire, selon moi, que c'est contemplatif. On a de superbes dessins, des longues, de grandes images, de paysages superbes, qui arrivent étonnamment, alors ça va être le côté des aquarelles ou des encres, je ne sais pas comment travaille Sorel là-dessus, malgré des couleurs vives, à être pleine de mélancolie, je trouve.
Moi, j'ai trouvé que c'était de l'aquarelle triste, alors que justement, tu parlais tout à l'heure du Brésil et de l'ambiance festive. Même dans ces ambiances festives, tout est empreint de mélancolie, tout est empreint de tristesse. Il y a une forme de lenteur dans le mouvement, même dans ces scènes joyeuses.
Il a réussi à faire c'est assez paradoxal, justement, ce côté très coloré, très vif, alors qu'en plus, Sorel travaille rarement dans ces teintes très colorées. Je pense sur Algernon Woodcock, par exemple, où il est dans des tons beaucoup plus pastels, beaucoup plus doux. Il est rarement dans des teintes aussi colorées. L'île des Morts, c'est pareil. Là, c'est dans des tons chauds, c'est... les seules planches bien sombres, c'est quand il nous parle justement de l'Europe, quand on voit des images de l'Europe. Il y a toujours beaucoup de lumière, et pourtant, c'est voilà, bourré de mélancolie. Vos mots.
Donc moi, pour le dessin, je trouvais que c'est de l'aquarelle efficace. Après, pour le scénario, je suis resté sur la biopsie.
Oui, le dessin.
Des peintures oniriques et en deux mots. Hein. Et le scénario, intimité.
Intimité. Je trouve qu'il y a une réussite dans cette adaptation parce que c'est quand même un romancier qui a adapté en bande dessinée son roman et qui a réussi quelque chose de très fort, c'est à ne pas être trop verbeux. Ce qui, sur des moments justement contemplatifs, peut être tentant, c'est-à-dire de vouloir mettre un commentaire dessous. Il a laissé une grande liberté au dessin, il a su travailler, je pense, vraiment bien avec Sorel.
La question que j'aurais bien voulu avoir, enfin une réponse, aurait été est-ce que Sorel, ça a été un choix de sa part ou est-ce que ça a été imposé? Parce que je trouve que le choix du style de Sorel va parfaitement avec l'histoire elle-même.
J'attendais pas du tout Sorel sur ce genre d'histoire, moi.
Ouais, mais je pense que son style, on va dire, s'y prête énormément. T'aurais eu quelqu'un avec un trait très réaliste ou... ça serait pas passé du tout, quoi. Là, je trouve que c'est vraiment ce côté un peu avec des cases des fois qui sont pas entièrement remplies, qui laissent beaucoup d'espace de libre.
Et des cases qui disparaissent vers la fin.
Je pense que l'alliance des deux est vraiment parfaite, quoi.
On est justement dans ce non-dit visuel de l'aquarelle, où l'aquarelle, tu la finis pas forcément dans les coins, où tu peux laisser des morceaux de blanc dans ta peinture, etc. Et je trouve que c'est une vraie réussite là-dessus. L'ambiance, justement, un petit peu triste et mélancolique, est aussi énormément rendue, je trouve, par les regards. L'air de rien, la taille des yeux par rapport au visage est un tout petit peu exagérée. Pour laisser la place au regard, à l'émotion, aux ridules.
Travail sur les cadrages aussi, voilà, la façon dont il les met en scène.
Un gros travail sur la mise en scène. Enfin, c'est... vraiment, il y a un souci du détail dans l'envie de faire passer des sentiments dans chaque case qui est vraiment, vraiment très présent, quoi.
Oui, et puis des cases purement contemplatives, quand on voit ce paysage de haut du train dans les forêts brésiliennes, c'est assez bluffant. Et voilà, ce que je disais justement, là je viens de rejeter un œil, je m'en étais pas rendu compte à la première lecture, il n'y a quasiment aucun narratif. Tous les textes passent par les dialogues. Il n'y a quasiment aucun narratif. Et je trouve que ça doit être une gageure pour un romancier que de casser son œuvre, casser sa narration pour l'adapter à un autre genre, à une autre façon d'écrire, à un autre support, à un autre média. J'ai passé un très bon moment à lire ce bouquin. Franchement, très, très sympathique.
Oui, moi aussi, je me suis vraiment...
Même si j'avoue qu'après avoir lu ça, j'étais un petit peu pas super joyeux.
Oui, bah ça montre que c'est très efficace et que ça fonctionne très, très bien.
Et pendant que je le lisais, je me disais, je lirais bien du Stephen Zweig. Et là, je disais moins. Moins.
De manière générale, de toute façon, ce n'est pas une écriture qui est très, très gaie. Hein.
Voilà. Pourtant, j'en ai chez moi, je ne les ai jamais lus, mais moins.
Bah surtout que, enfin moi, a priori, le seul bouquin que je connaissais de lui, c'était Le Joueur d'échecs.
Ouais.
Et qui était en fait un bouquin qui est paru à titre posthume, donc qui n'était même pas paru, on va dire, du vivant de l'auteur. Donc,
je ne savais pas, d'accord. Moi, j'en ai plusieurs. Ma grand-mère m'en avait laissé plein en se disant oh, il va lire des choses un peu plus intelligentes.
La BD.
Non, je lisais moins de BD à l'époque. The Boys, numéro 13 et 14, sans transition aucune, parce que je crois qu'on peut pas en faire.
Je ne dirais pas que ce soit plus léger, hein. On en rentre dans du plus lourd, là. Hein.
Du polar politique.
Deux pour le prix d'un.
Pour le genre, oui, alors là, voilà, on avait pas mal de retard. Et qui, en gros, nous raconte dans le premier tome, le petit. Donc, vite fait, pour remettre The Boys le contexte quand même.
Guy s'est engueulé avec sa copine.
Ouais, mais pour les gens qui découvrent The Boys. C'est l'histoire d'un groupe de mecs normaux qui ont juste une drogue qui s'appelle le jus pour être un peu plus balèze et qui luttent contre les super-héros qui sont tous des enfoirés. Point.
Bon, si tu découvres la découverte au tome 14, faut arrêter.
Mais les gens peuvent nous découvrir notre podcast maintenant.
Ouais. Mais non. Si vous le découvrez, sautez dessus.
Le tome 13, donc, insiste sur le petit qui vient de larguer sa copine et qui débarque.
Ah, il l'a pas largué, ils se sont très fortement engueulés, voire à tendance définitive.
Oui, il l'a traité de sale pute, quoi, globalement, et il s'est barré.
Oui.
Oui, mais il a pas dit c'est fini.
C'est vrai.
C'est vrai. Le terme sale pute, souvent, peut mettre une forme de pause dans la relation.
Il y a un doute, c'est vrai que...
Il y a un doute légitime. S'il couche avec quelqu'un, il pourrait très bien dire « on était séparés », comme Ross, et elle dire « mais tu ne m'as dit que sale pute ».
Attention, les références Friends.
Donc, du coup, on n'était pas réellement séparés.
C'est vrai, c'était pas clair. Il n'avait pas signé l'acte de séparation.
C'est vrai, c'est vrai.
Il retourne chez ses parents qu'il n'a pas vu depuis des années.
Parce qu'il vit aux États-Unis. Hein, il retourne donc en Écosse chez lui.
Parce qu'il vit en Écosse, donc il retourne chez lui en Écosse.
Oui.
Parce que non, il vit aux États-Unis. Voilà.
Voilà. Oh, c'est marrant, le scénariste, il est écossais, je crois. et le tome 2, tome 14, le deuxième tome que nous traitons ce soir, le tome 14, s'intéresse là beaucoup plus au côté politique de la situation où on a les choses qui se mettent en place pour que les gars. Se lance directement sur tenter de faire tomber les sept.
On est sur une forme de mise en place de la grande scène finale. Hein. Je veux dire, si on était dans le cadre d'un film,
c'est juste avant
là, c'est la réunion préparatoire avant la grande scène de baston finale. Hein. La dernière planche du ouais, tome 14.
Elle en jette.
Donc, c'est juste magnifique.
Oui, on est vraiment sur la préparation, les choses qui se mettent en place. Moi, pour le scénario, sur les deux tomes, je trouve qu'il y a un côté origine.
J'ai marqué aussi origine violente parce que c'est pas le tome 13 donc qui parle des origines de petit Huggy. On est dans la suite logique d'autres tomes où effectivement on était dans
on a vu les origines des autres
personnages. Et là on est sur ces deux tomes avec encore une fois énormément de violence, mais même dans les origines, même dans la création du personnage, dans la façon dont il a vécu son enfance, parfois une violence affective, on va dire, parce que l'emprise familiale, le surcouvage familial...
Et un grand clin d'œil à Enid Blyton. Enid Blyton, l'auteur de Oui Oui, mais aussi du Club des Cinq, du Clan des Sept. Et...
Ah oui, le côté petit enquêteur
voilà, parce que
qui aide la police.
Le petit enquêteur qui aide la police, c'est ce qu'était Huggy apparemment quand il était dans son bled.
Clairement, oui.
Oui. Et donc, alors là, ils sont en train de feuilleter et de rire bêtement, parce qu'effectivement, il y a plein de cases très très drôles.
Le terme de violence n'est franchement pas galvaudé. Hein.
Oui, oui, non, c'est gore, il se limite pas. Et le deuxième tome qu'on traite, donc le 14, je vais à chaque fois dire le deuxième tome, mais c'est le 14, là, on a vraiment, il nous montre les origines du conflit avec les sept. Comment est-ce qu'ils se sont mis en place
J'ai plus le premier conflit contre les sept.
Voilà.
Pas simplement le fait de la première enquête contre les sept, ça a été le premier fight. Quoi.
Le premier fight dont on avait entendu parler mystérieusement, et surtout, on en apprend enfin un peu plus sur la personne qui était là avant Guy, chez les gars, c'est-à-dire l'ancien chef en fait, celui qui avait recruté Butcher. Et pour le coup, on en apprend un peu sur les origines de Butcher, chose qu'on n'avait encore jamais vue. Mm-hmm. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis origine. Vos mots, c'était donc toi, c'était dans le même ordre d'idée, scénario.
Noir.
Noir. Oui, bah c'est. C'est toujours très sombre. Il y a aucune concession, je veux dire. C'est Garth Ennis aussi. Hein. Il a l'habitude d'être sombre, gore, intransigeant.
Mais ça reste très drôle malgré tout. On tombe pas dans le polar noir, gore, sombre en
ouais,
permanence.
Drôle et limite potache quand même aussi
oui,
parfois.
Oui, voilà.
Parce que
il y a toujours des touches qui nous permettent de continuer là-dedans sans souffrir de cette violence ou de cet aspect
ouais,
gore.
Ouais, mais c'est les blagues que tu fais quand t'es bourré à 3h du mat, quoi.
Le 13 fait très très blague de sortie de pub, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est.
Et d'ailleurs, ils sortent tout le temps de pub dans le 13. Hein.
Oui, beaucoup.
C'est la seule chose qui est dans le village d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Normalement, il y a un coiffeur aussi.
Oui.
Et il y a le prêtre.
Le prêtre fou, oui. Oui, aussi une galerie de personnages secondaires qui est hilarante, qui est complètement
mais,
débile. Alors,
quelque part, tu comprends pourquoi petit Huggy est parti. Hein,
oui. Et pourtant, il arrive toujours, et c'est ça, moi, que je trouve fort avec Garth Ennis, c'est au milieu de ces passages débiles, déjantés, gore, etc., à mettre un peu d'émotion, les relations de Huggy avec ses parents. Le vieux avec qui il va pêcher et qui l'aide psychologiquement à se remettre en question et aller de l'avant. La relation de petit Huggy avec sa copine qui évolue encore.
La relation de petit Huggy avec ses potes idéalisés d'enfance.
Oui, qui est un grand classique. Tu sais, le « Hey, oh putain, on était potes d'enfance, buvons un coup ensemble. Salut, ah, t'es devenu ça toi ah. Et alors ?»
C'est ça, le côté copain d'avant, mais surtout avant, quoi, moins de copain.
Ah, vous n'avez pas évolué, vous. Vous êtes restés les mêmes. Quand on avait 14 ans, c'était rigolo. Voilà. Le dessin, j'ai mis crade.
Moi, j'ai marqué efficace.
Moi, je le trouve un peu gras, un peu crade. Moi, c'est plus Derek Robertson. Hein,
j'ai marqué trash. Ça a moins de finesse qu'avant, quoi. C'est...
Ah, Derek Robertson, il avait un truc, quoi. Il fait toujours les couvertures. Mais c'est vrai que là, sur le dessin, donc c'est, comment il s'appelle déjà, Russ Brown. Je trouve ça un petit peu plus gras, quoi. J'accroche moins. Sur le 13, je crois que c'est pas Russ Brown, c'est encore un autre. C'est John McCree, voilà. C'est plus caricatural, ça se tient moins dans les visages aussi. Il change de gueule non-stop.
On s'habitue aussi, hein, c'est.
C'est vrai que les personnages secondaires ont une fâcheuse tendance à changer un petit peu dans le détail.
Mais je pense que c'est une série qui continue à marcher, surtout pour son scénario aussi. Hein. Le dessin est devenu clairement secondaire. Ça a aidé au début du fait que ce soit Derek Robertson, le gars de Transmétropolitane, qui s'associe avec Garth Ennis, le gars de Preacher. Ça pouvait faire parler. En plus, c'était chez DC Comics au départ. Ils se sont fait virer parce qu'ils étaient trop violents. Mais voilà, je trouve que là, le dessin commence à un peu souffrir. Heureusement que le scénario est sympa. Par contre, j'espère qu'au tome qui vient, là, le prochain, on va avoir un gros truc qui change, voire une fin, parce que il faut que cette série finisse, je pense.
Ça fait déjà combien de tomes ouais. que je te dis ça ?
Oui, mais t'avais eu les avancées que t'attendais dans le tome d'avant, le 12.
Le 12, ouais. Oui, mais ça faisait 3 tomes que je te disais, il faut que ça avance. Mmh. Le 12, j'ai fait « Ah, ça avance enfin !» Puis là, 13, 14... Bon, le 14, enfin le... Oui, c'est le 14. Le 14, ça met en place des choses et ça t'explique des trucs, c'est clair. Mais maintenant, voilà, t'attends la bataille finale, quoi.
C'est exactement ça. On attend la bataille finale. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même que ça finisse et que ça avance vers la fin de toute cette histoire-là, tant sur le plan politique que sur le plan des super-héros et des tensions à la fois internes, des vieilles tensions qui existent chez le Butcher, etc. Mais voilà. En tout cas, toutes les pièces du puzzle sont plutôt bien mises en place, je trouve, pour qu'on ait droit à un très joli final.
Sur les bords du monde. Alors, le livre est chez l'un d'entre nous.
Il a été perdu dans le cloud.
Dans le cloud.
Le cloud, c'est chez Mathieu, pour info.
C'est peut-être chez moi, en fait.
C'est... Ah non, 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 parce que je l'ai... Non. Oh, écoutez, on va peut-être pas non plus raconter non plus nos vies, mais il est... Ben oui, sauf qu'il est reparti de chez moi, donc...
Donc il est peut-être chez moi, il faudra que je fouille. C'est un peu le bordel en ce moment. Sur les bords du monde, donc... Une bande dessinée chez Grand Angle qui nous raconte les aventures de Lord Shackleton. Alors, le spécialiste...
Qui est Lord Shackleton.
Tiens, on va laisser Thio parler un peu, je parle trop. Ouais, je suis comme
la
ça.
La minute historique. C'est très gentil à toi, au moins ça me fait plaisir, parce que du coup j'étais formidablement
documenté
et préparé pour le coup. Donc, qui est Lord Shackleton. Donc, c'est un explorateur anglais qui a essayé de conquérir le pôle sud, mais malheureusement, pas de bol, il est arrivé après Amundsen. Donc, du coup, bah, il n'a pas eu la gloire. Ensuite, il a essayé de traverser le pôle sud avec donc l'expédition qu'on va suivre justement sur les bords du monde.
Donc, vraiment le traverser de long en large.
De long en large, et là, ça va être ce qui finalement va faire sa gloire, ça a été son plus grand échec.
Voilà, ça m'a permis, pendant que tu faisais l'introduction, de trouver que c'était scénarisé par Jean-François Henry, Jacques Malater et Hervé Richez, et que c'était dessiné par Olivier Frazier. Voilà. C'est le tome 1, deux tomes sont prévus, en tout cas.
Oui.
Et donc, nous allons voir comment il monte son expédition. Comment il part avec son expédition et comment il se met dans la merde avec son expédition.
C'est ça.
On résume bien.
Ouais, mais il a eu aussi pas de bol.
Pas de bol.
Il a eu aussi pas de bol.
Vas-y, mais ce qui est, pas alors, de bol.
Si, non, il y a eu pas de bol. Mais ouais. On en parle après. Vas-y, on fait la BD. Et...
D'accord. Parce que toi, tu connais un peu le sujet de Lord Shackleton un peu plus à la base. Tu connaissais déjà
Ouais, parce qu'en fait, je suis tombé sur un. Ouais, on va faire ma vie. Mais les super reportages qui passent des fois sur des chaînes improbables la nuit à 3h du mat. Et je suis tombé sur justement l'exploration de Shackleton, justement de l'endurance, quoi. Un truc un peu romancé avec des personnages fictifs et tout, mais. Ça dure environ 1h40, c'était super intéressant. Et du coup, je l'ai vu quelques semaines avant de lire la BD. Donc, du coup, j'étais à fond.
Ok. Et donc, on est en 1914, ils sont 28 à bord du bateau et ils se retrouvent prisonniers des glaces. Hein, c'est la thématique globale. Et comment est-ce qu'ils s'en sortent avec leur chef qui commence à lui faire de moins en moins confiance. Forcément, hein, quand un chef qui te met dans la merde, bizarrement, la confiance commence à sombrer un peu. La personnalité de Shackleton, qui est un petit peu... peu extrême.
Il est sans concession.
Voilà. Il dit hey, faire ça maintenant, on fait ça maintenant. Oui, mais il faudrait que. Maintenant
Ouais, mais c'est quelqu'un qui est quand même, voilà, dans tous les trucs du coup, parce que après, voilà, je me suis un peu documenté, forcément, parce que tu vois, je sentais que tu allais me faire un truc comme ça. C'est quelqu'un qui était quand même très charismatique, quoi, dans son ensemble, et qui en impose aux gens. Voilà. Et ça a toujours été comme ça. Mais en même temps, il avait même le capitaine de l'Endurance a reconnu que quand ça sortait de son domaine de connaissances, il déléguait à ceux qui savaient.
D'accord. Ouais, donc c'est pas un mauvais chef. Quoi.
C'est pas un mauvais chef, voilà. Mais dans ses choix, il va être extrême, toujours.
Oui, puis il se lance dans des défis extrêmes, quoi.
Dans ce genre de situation, dans ce genre de défi, justement, il y a quand même besoin d'une part de folie. S'il n'y a pas justement le leader qui va inciter les gens à se dépasser, ça ne peut jamais fonctionner. Traverser le pôle sud en passant par le pôle en bateau, sortez les roulettes, quoi.
Bah, justement, il n'en avait pas. Pour le genre, j'ai oublié de le citer, c'est de l'exploration historique, hein, mais vous l'aurez deviné en nous écoutant raconter l'histoire. Au niveau du dessin, j'ai dit que c'était assez classique comme style graphique.
Moi, j'ai mis c'est réaliste.
Voilà, c'est...
Moi, j'ai marqué que c'était vieillot, mais efficace.
Ah, il n'irait pas jusqu'à vieillot. Ça reste un peu classique, mais il y a un petit peu de dynamisme quand même dans le dessin. C'est pas non plus statique.
Oui, mais vieillot. Mais efficace. Donc, vieillot et efficace.
Je crois que tu as dit vieillot et efficace, c'est ça ?
Ou efficace et vieillot. Ça marche aussi dans
les deux sens. Le scénario... J'ai mis évasion. Pour moi, il y a vraiment un côté évasion dans les deux sens, parce que à un moment, ils essaient de s'évader des glaces, entre guillemets. Mais tu te dis, waouh, les mecs, c'est des malades, quoi. Les gens qui s'embauchent là-dessus, les gens qui rentrent dans ce truc-là, c'est. Alors, oui, alors, la base de virus est encore mise à jour, mais en fait, on l'entend pas dans l'enregistrement au montage précédent, j'avais vérifié. Donc, ça provoque l'hilarité générale, forcément.
C'est le running gag.
Donc, évasion, parce que ouais, tu te dis, merde, ces mecs-là sont des malades, ils vont dans des aventures terribles, des paysages superbes. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu vas t'embarquer là-dedans, quoi ? Ils te mettent dans la BD l'offre d'emploi, telle qu'elle apparaissait à l'époque. C'était en gros, vous êtes mal payé, vous allez risquer votre vie, mais vous allez vivre une aventure que vous n'oublierez jamais. Le truc, ça donne trop envie. Faut être désespéré pour s'embaucher sur un truc comme ça.
Ouais, mais c'était justement, enfin, quelque part, tu pars pour un an, deux ans, et t'es pas sûr de revenir, quoi.
Oui.
C'était encore, je dirais, la véritable exploration de l'aventure, quoi.
Mais les mecs qui s'embauchent là-dedans, c'est pas détendre, quoi. C'est les mecs qui...
C'est tous des repris de justice.
C'est les 27
mais
mercenaires.
Clairement, ça se voyait qu'il est, en tout cas, l'ambiance est bien rendue dans la bande dessinée, où il y a quand même... Chaque personnage a un fort caractère. Quel que soit son âge dans l'histoire, tout le monde a un très fort caractère. Hein. Et puis, je pense qu'il faut avoir une bonne trempe pour arriver à faire ça. C'est comme si, un petit peu aujourd'hui, on nous proposait d'aller explorer Mars. Quoi. Là, on est dans le domaine de l'exploration de l'inconnu. Hein.
Oui.
2 ans avant, c'était, comment il s'appelle Amundsen qui faisait l'exploration du pôle Sud. Donc, je veux dire, on est dans des choses très, très fraîches au niveau de l'exploration et de la découverte du globe. Hein.
En tout cas, moi, j'ai trouvé ça sympathique, ça m'a plu, j'ai trouvé ça sympa. Alors, je vais pas dire transcendant non plus, hein, mais je trouve que c'était une bonne BD qui se lit bien. Si on est intéressé par le sujet de l'exploration des pôles, est vraiment bien foutu, elle a l'air bien documentée.
Très bien documentée, parce que justement, donc, dans l'expédition, il y avait un photographe qui est donc cité voilà, justement dans la BD, et qui a donc fait beaucoup, beaucoup de photos, et je pense qu'il s'en est vraiment servi pour les illustrations de la bande dessinée.
Voilà.
Après, voilà, ce que retranscrit pas la bande dessinée, c'est certains faits qui se sont déroulés, on va dire, au cours du voyage, qui font que il y a eu aussi pas de bol dans certaines conditions climatiques, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises qui n'étaient pas les bonnes pour chaque.
T'avais l'air assez déçu de la façon dont était retranscrit Shackleton dans la BD, tu m'avais dit.
Pour moi, il était trop autoritaire en fait.
D'accord.
Parce que c'est que toi, tu prends l'aspect bande dessinée, il est vraiment très dur. Alors, il était très dur, certes, mais il y avait, justement, sur les témoignages, tu avais quand même quelqu'un qui, humainement, avait quand même des valeurs. Quoi, hein.
Est-ce que c'est pas ce qu'ils ont voulu montrer avec le môme qui débarque sur le bateau
Peut-être.
Voilà. Alors, c'est marrant parce que là, je mélange, parce qu'on en reparlera dans 15 jours de Esteban, mais on a un petit peu.
Je crois que tu as
ouais.
Peut-être là.
Non, mais je crois qu'il y a un passager clandestin dans le bord du monde, oui. Voilà, donc toujours, il faut croire que dès qu'il y a une aventure sur un bateau avec un capitaine dur, il faut qu'on mette un môme au milieu.
Voilà. Ça permet d'avoir une touche de sentimentalité. Moi, j'aime noter qu'il était, malgré tout, le scénario était assez haletant. Parce que je ne suis pas rentré dedans, enfin, je n'avais pas une grosse envie de le lire au départ. Et pour autant, je me suis bien pris au jeu et j'avais hâte d'arriver au bout.
Et donc pour ceux qui voudraient, vous devez sans doute pouvoir trouver sur certains sites de téléchargement le documentaire en question. Je vous assure que c'est très intéressant à regarder.
Arte plus 7.
Ouais, non, mais enfin dans un truc dans le style quoi. Et bon, du coup là, par contre, je pense que ça retranscrit les deux bandes dessinées. Ça, la deuxième, on l'a pas encore lu, mais c'est vraiment une histoire qui est passionnante.
Seul numéro 7. Alors là, on reprend une grande série de Fabien Velman et Gazzotti, dont j'ai oublié le prénom, mais hein, parce qu'il n'est pas marqué sur la couverture.
Bruno Gazzotti. C'est quoi le pitch de Seul ?
C'est toujours difficile de parler de Seul, parce que forcément, quand on parle du tome 7, on est obligé de parler un peu des 6 précédents.
Non, on peut juste dire il n'y a plus de parents sur Terre.
Voilà, tous les parents ont
disparu. Que des enfants.
Les parents ont disparu. On sait pourquoi ils ont disparu maintenant, hein, parce qu'on est quand même au deuxième cycle de Seul, hein, qui a commencé avec le tome 6. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il y a une sorte de zone maléfique qui a commencé à s'enfoncer dans le sol, et les enfants se sont retrouvés en plus emprisonnés, enfoncés dans le sol, proches de la zone maléfique, et vont donc chercher un moyen de monter la falaise, sachant que dans cette zone-là, tout ce qui est électrique, mécanique, ne marche plus. On est vraiment dans... Donc c'est de l'horreur jeunesse. C'est du méga thriller. Il y a deux groupes, globalement, hein, qui se sont mis en place. Il y a le groupe des héros qu'on suit depuis le début, qui est assez soudé, qui représente toutes les bonnes valeurs, tout ce qui va bien, etc. Et on a le groupe du petit blondinet un peu facho, mais qui est plutôt celui qui va prendre les décisions difficiles qu'il va falloir prendre pour essayer de s'en sortir. Et on suit ces deux groupes qui sont pas forcément d'accord, mais qui pour le coup vont s'allier vraiment pour essayer de trouver une solution. Et on enchaîne sur découverte de nouveaux mystères.
Disons qu'on a
On a un peu refermé le voile sur certaines choses, parce que bon, du coup, on a eu des réponses. Mais forcément, voilà, il nous crée de nouvelles questions. Moi, j'ai mis que le scénario était haletant, mais j'attends la suite, parce que là, je sais pas vers quoi il tend. Tu vois,
il est un peu parti dans le truc de zombie dans ce tome-là, justement. C'était assez.
Et c'est, ouais.
Là, il y a vraiment une thématique zombie dans celui-là, parce qu'il y a des enfants qui se retrouvent contaminés, qui avec les yeux rouges, qui commencent à les attaquer. Alors, à un moment, ils sont dans la brume. Il y a une scène vraiment terrible quand ils sont dans la brume, ils voient pas. Alors, ils essaient de grimper au-dessus de la brume pour éviter d'être attrapés et d'être contaminés à leur tour.
Ça fait penser un peu au Schtroumpf Noir. Ça...
oui, mais le Schtroumpf Noir est une sorte de zombie. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré Kirkman pour The Walking Dead. Oui, non, je crois pas. Enfin, quoique, pourquoi pas. Petit Isaac était en train de lire en parallèle, arrive au milieu de la conversation et est complètement largué.
C'est pas grave.
Donc, en tout cas, je trouvais ça très sympathique. Au niveau du scénario, j'ai mis inquiétant. Je trouve qu'il commence à avoir une inquiétude sur comment ça évolue. En plus, on a encore un final qui nous fait encore nous poser des tonnes de questions. Un cliffhanger assez réussi.
Surtout qu'il y a une réduction en fait quand même de l'équipe.
Oui.
Des enfants qu'on suivait depuis le début.
Là, avec tous ceux qui sont zombifiés.
Ouais, là, ça a quand même vachement réduit au niveau du nombre. Et du coup, ce resserrement, voilà, tu sens que c'est. Est-ce que c'est pas les derniers jours qu'ils vivent, quoi ?
Oui, ouais. Enfin, il y a un côté inquiétant, mais d'un autre côté, s'ils respectent le nombre de tomes qu'il avait utilisé pour le premier cycle, on a encore 3 hein, à venir pour le finir. Je sais pas comment on va faire Velman. En tout cas, c'est très bien écrit, c'est très prenant, c'est tout public, tout en étant assez dur.
Très ouais, moi je suis haletant, c'est tu es dedans quoi. Hein.
Et j'ai trouvé que le dessin c'était assombri. J'avais quelques reproches sur le dessin que je trouvais trop clair dans les tomes précédents par rapport à la thématique. Et je trouve qu'il s'est un peu assombri. L'ancrage est plus noir, plus sombre. Les couleurs, bon, il y a les côtés dans la brume qui sont un peu plus ternes, etc., sont un peu plus dans le ton, je trouve, et collent mieux au récit.
Oui. Mais enfin, moi, je t'avoue que j'ai pas noté l'évolution que tu signales.
Bah, les personnages comiques, le plus jeune, qui sont un peu laissés de côté aussi dans le scénario, on les voit moins. Et ils l'utilisent surtout parce qu'ils voient un monstre dans un miroir qu'ils ne voient pas tant qu'ils ne regardent pas dans le miroir. Enfin, voilà, donc le personnage comique qui commence à être un personnage qui nous sert à amener de l'horreur et de la peur. Enfin. Je trouve toujours que c'est une très bonne série. Je suis toujours en admiration devant Fabien Velman qui fait des choses magnifiques. J'ai hâte qu'il nous sorte enfin un recueil de Bob le Cowboy qu'il dessine et qu'il scénarise et qui est un chef-d'œuvre. Mais je crois que je serai le seul à l'acheter. C'est bon ?
Minute de silence ému.
Les fondus de la cuisine.
Il n'y a pas de minute de silence là par contre. Hein.
Les fondus de la cuisine, alors. C'est de l'humour potage au niveau du genre.
Je ne cautionne pas. Ça n'aurait peut-être pas dû, ouais, c'est ça. Oui. Bon, c'est pas grave. Donc, Les Fondus de la Cuisine, c'est un album collector, donc ils sont parus.
Chez Bambou, chez par Bambou. Richesse Cazeneuve.
Voilà.
Et Sève.
Et ben, vas-y.
Je t'en prie.
Non, je le laisse.
Donc, par Richesse Cazeneuve et Sève. C'est un album collector, en gros, pour les 10 ans de Christophe Cazeneuve dans la bande dessinée. Ils ont sorti une série d'albums en grand format, qui était déjà sorti auparavant, avec du bonus à la fin. Ce sont les séries comiques de Christophe Cazeneuve, qui, au niveau du enfin, ce sont un peu de la bande dessinée de supermarché, hein, des trucs faciles à offrir, faciles à lire, pas prise de tête. Y a toujours quelques gags qui font sourire. Moi, je suis pas fan du tout du genre. Au niveau du scénario, j'ai mis que c'était standard. Au niveau du dessin, j'ai mis que c'était basique. Thio ?
Au niveau du scénar, j'ai mis que c'était souriant. Parfois. Et au niveau du dessin, c'est assez caricatural. Quoi.
Par contre, au niveau de l'édition, je trouvais ça pas mal, le côté bonus à la fin, qui est assez intéressant. Parce que bon, on dit souvent, il est facile de dire du mal de cette bande dessinée de supermarché. Qui reste de la bande dessinée, qui permet de faire lire de la bande dessinée aux gens. Moi, je trouve ça intéressant pour ça. Quand tu parles de BD, alors, ça dessert un peu l'image de la BD. Parce que c'est vrai que quand tu parles de BD, les gens pensent à ça et pas forcément à des trucs plus intello. Mais d'un autre côté, ne s'intéresser qu'aux trucs plus intello, je trouve que c'est un petit peu pédant. Et là, j'ai bien aimé le côté où ils expliquent derrière comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils écrivent la bande dessinée. Le principe de la série Les Fondus, qui est en gros une série où à chaque fois ils prennent le même groupe de personnages qui apparemment sont dans une association et qui se lancent à fond dans un sujet. Donc là, c'est la cuisine. Il y en a eu un sur le jardinage, il y en a eu un sur le bricolage. C'est vraiment très varié, avec des dessinateurs différents à chaque fois. Je trouve ça intéressant d'avoir un peu ce making-of, ce bonus DVD, de voir comment est-ce qu'on fabrique aussi de la bande dessinée commerciale qui marche. Voilà.
Ouais. Par contre, le seul petit...
Ah, le détail que tu as remarqué.
Bah, disons que ouais, je dirais n'importe qui le lit va le remarquer, c'est qu'il y a quand même deux fois la même planche, des pages différentes avec un en-tête différent, donc deux fois oui. Le même gag. C'est un peu dommage que, bon, pour une édition collector, ils n'aient pas au moins fait l'effort de relire, de se dire « Ah tiens, je crois qu'on l'a déjà placé une première fois. »
Ouais, ils ont un peu merdé là-dessus, ce qui est dommage. En tout cas, moi j'ai bien aimé cette initiative. Si vous êtes intrigué par les séries de Cazenove chez Bambou, je trouve que c'est une bonne approche. Ça permet de bien découvrir comment ils travaillent et en plus ça permet de voir le côté que c'est aussi de la BD qui demande du travail et que les mecs qui la font ils passent du temps dessus quoi.
Pas sur ça,
mais pas sur les doubles pages.
Pas sur les doubles pages, voilà. Non, mais c'est vrai que le petit plus à la fin était intéressant. Surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était tous les personnages de la série faits par les différents dessinateurs.
Oui, surtout qu'il y a un de tes...
Comment ? Il y a Wooden Locher dedans, il y a DiMartino. Voilà, c'est sympa de voir les différences dans le dessin de chaque personnage.
Splash Page.
Et c'est la splash
page. C'est la splash page, c'est maintenant, allez à toi.
Et là, t'as l'air emmerdé. Hein.
Et là, tu peux faire une pause dans l'enregistrement.
Mais non, car pour cette splash page, nous allons commencer par écouter une interview de l'auteur de Miami Hindu.
Celle où il y a eu tous les incidents techniques possibles et imaginables.
C'est la première que t'avais faite sur le Festival des Calanques
au début. Donc, au milieu de l'interview, il y a eu une alerte à la bombe. On a dû évacuer à ce moment-là, ce qui fait que j'ai coupé l'interview au milieu. Ensuite,
vas-y, cherche une excuse.
Ensuite, on a eu un petit problème technique. C'est un bouton pause qui a été activé... par la malveillance extrême de
ton pouce,
de mon pouce, exactement, et qui fait qu'on a eu un petit trou en fait dans l'enregistrement, mais sinon c'était excellent et c'était très sympathique l'interview avec Maya en tout cas.
Moi je l'ai pas écouté l'interview, je vais l'écouter pour le montage et ce que tu me racontes là me fait peur.
Ce qui était encore meilleur, c'est quand même le off de l'interview, le après interview. Sans enregistrement, donc, dont on a pu profiter, mais du coup, pas vous.
D'accord. Eh ben, vous allez me raconter tout ça juste après l'interview.
Non, ça, c'est un truc que j'ai remarqué en interview, c'est que quand tu parles aux auteurs, tu leur poses des questions, et là, en fait, je sais pas, c'est le stress du micro ou quoi, encore plus stressé que moi, quoi, finalement. Et
ce jour-là, c'était pareil.
Ouais, ils te sortent rien, tu sais, du style, votre dernière lecture, je sais plus, je le vois, mais j'ai plus le nom en tête. Et en fait, tu finis l'interview, tu les remercies, style, tu discutes 3 minutes, et là, d'un coup, ils te ressortent tous les trucs dont ils se souviennent après coup.
Oui.
Ah, mais oui, non, ma première lecture, c'était ça. Et puis là, en fait, le projet sur lequel je travaille, c'est ça. Et puis.
Et toi, tu verras que le jour, et tu t'es rendu compte aussi que quand t'arrives chez toi le soir, tu dis, putain, j'aurais dû poser cette question-là. Oh, j'ai oublié de demander ça. Oh, et puis...
Ah, ça m'arrive jamais, parce que j'ai pas de cerveau.
D'accord. Bon, on écoute l'interview de Miami Hindu, et on se retrouve juste après.
Au niveau de l'inspiration de vos dessins, vous avez des références ou ou c'est vraiment c'est une création qui s'est faite petit à petit
Il y en a, on est pétri de références et j'ai toujours vachement de mal à répondre à cette question parce que c'est jamais très conscient. En plus, je lis pas énormément de bandes dessinées finalement. Et ce que je lis ne ressemble absolument pas à ce que je dessine. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influences assez anciennes de mes goûts. Jeune en fait, mais qui me porte encore beaucoup de tête, je dirais Taiyo Matsumoto, qui est un auteur japonais qui a fait Amer Béton. Ça, c'est le genre de bande dessinée qui m'a vraiment beaucoup marqué. Après, c'est beaucoup d'illustrations aussi. Je sais pas, Moebius. Ouais, je sais vraiment jamais répondre à cette question-là en fait. C'est que comme c'est beaucoup de... Je fonctionne beaucoup au dessin automatique, c'est que du coup les choses sortent un peu comme ça et c'est pas vraiment réfléchi ni conscient. Et après je retrouve des choses, je vois bien que ça vient de quelque part,
mais...
C'est jamais vraiment conscient. Et le fait aussi d'avoir fait pas mal de fanzina pendant quelques années, je sais que c'est beaucoup ça qui m'a formé, plus même que la lecture de bande dessinée ou d'illustration. C'est déjà un univers qui est tellement riche, le milieu underground ou quoi, que c'est plutôt même les gens avec qui je travaillais. Il y a eu une espèce d'énergie très forte comme ça qui m'a, en tout cas, qui est, je pense, la base de mon travail.
Des références en cinéma peut-être, parce que là c'est quand même très graphique.
En peinture, ah, c'est horrible. Pourtant, Dieu sait qu'il y a un milliard de peintres et de dessinateurs et de gens que j'aime, mais à chaque fois qu'on me pose la question, ça me trouble vachement. Disons au cinéma d'animation. Je pense que côté japonais, c'est quelque chose qui, à jeune, m'a beaucoup marqué. Pourtant, encore une fois, je lis très peu maintenant de manga et ne regarde pas tant d'animes, mais. Quand j'étais jeune, je regardais des animés comme, je sais pas, Fooly Cooly ou le studio 4C qui a fait des films complètement expérimentaux comme Mind Game ou encore Amer Béton, l'adaptation. Où c'est beaucoup d'expérimentation graphique très très forte où on mélange photo, peinture, dessin, en LSD certainement, enfin j'en sais rien, mais ils osent tout en fait. Ils essaient de se déconnecter un maximum de la technique justement et d'être beaucoup dans le feeling. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve beaucoup plus du côté du Japon que dans le reste de la bande dessinée. Et c'est plus cette démarche-là qui me parle, et notamment dans l'illustration japonaise, parce qu'il n'y a rien qui est évident. C'est-à-dire qu'il y a un travail très fort de l'esthétique, mais il y aura toujours... Le pire et le beau se côtoient beaucoup. C'est-à-dire quelque chose de très beau peut représenter quelque chose d'horrible. Et je sais très mal parler de ça, mais disons qu'au niveau des illustrateurs au Japon, c'est comme si le malaise de la société sortait dans l'art, mais de manière très esthétique.
Ouais.
Et c'est très spécifique au Japon. Je crois que c'est ça qui me... En tout cas, consciemment, que je peux exprimer. Quoi. C'est quelque chose... C'est pas vraiment ce qu'il y a dans mon dessin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Cette démarche-là.
Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé quand même dans le dessin de Sabine, ce qui mélange un petit peu de monde de rêve, et on ne sait pas si c'est un rêve.
Oui, voilà, d'avoir un dessin qui peut être très mignon, très enfantin, mais que le propos n'est pas forcément mignon et enfantin.
Entre le rêve et le cauchemar.
Voilà, cette constance-là, ouais. Cette constance-là me parle pas mal. Et ça, il n'y a pas qu'au Japon que ça se fait, mais voilà.
Dans le texte justement de Sabine, il y a des moments où on a eu, enfin moi j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu que c'était un peu une certaine philosophie, un petit peu comme des haïkus en fait japonais. C'était voulu?
Pas du tout. Alors après au texte au Japon, ça n'a rien à voir. Non. Là, pour ce livre spécifiquement, je crois qu'il y a, je l'ai dessiné beaucoup en voyage. J'ai beaucoup voyagé pendant 2 ans. J'ai eu l'occasion d'aller beaucoup en Asie et en Afrique. Et du coup, il y a un peu de ça dans le dessin et dans les textes. Là, c'est plus la volonté que j'avais au départ, c'était de reprendre des narrations de contes africains, parce que moi j'ai grandi avec ça, et au départ c'était encore beaucoup plus je sais pas comment dire, mais rythmé, avec même des expressions qui n'étaient pas forcément très françaises ou quoi, mais de reprendre des images qui viennent de là-bas. Et finalement c'est vrai que ça, c'était peut-être trop complexe même, ou ça n'était pas adapté. Du coup j'ai beaucoup retravaillé le texte pour le rendre plus audible. Mais disons que ça vient de là. Au niveau du texte, ouais, ça vient plutôt d'histoire de mon enfance en Afrique, d'une narration un peu qui se voulait un petit peu rythmée, ou en tout cas comme des contes que j'ai déjà entendus, ou des choses comme ça. Pas tant du côté asiatique, pour le coup. Non.
Non. Trompé encore sur la référence, 2 fois.
Vous parliez de vos origines. On peut en savoir un petit peu plus.
Moi je suis gabonaise d'Afrique centrale, donc un petit pays d'Afrique centrale. Après dans le livre, je me revendique absolument pas d'être auteur africaine ou quoi, parce que je parle absolument pas de l'Afrique dans ce livre, mais je sais que c'est une influence. Je suis très influencée par mes souvenirs d'enfance en Afrique, donc c'est quelque chose de très mythifié, comme n'importe quel souvenir d'enfance où on a tendance à en faire quelque chose de très beau, de très fantasmé, etc. Et je sais que c'est beaucoup de ces éléments-là qui reviennent. Donc le rapport à la famille, à la nature.
Puis en plus, c'est vrai que c'est intéressant.
Le fait d'avoir grandi en bord de forêt, en bord de mer.
Voilà. Parce qu'il y a le mélange des deux en fait au Gabon. C'est vrai que c'est très joli, tant sur la côte que quand
on est dans la jungle. C'est 80% de forêt le Gabon. Oui. Donc c'est un gros poumon en Afrique. Et donc, ouais, c'est comme je suis arrivée en France vers 10 ans, ça a été un choc très très fort pour moi. Et du coup, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fantasmé. Et quand je suis retournée après en vrai au Gabon, ça a été un autre choc parce que c'est pas du tout la même,
ah ouais,
la même chose que l'enfance, justement. C'est la réalité est beaucoup plus saillante.
Mais le choc est aussi, aussi fort en fait dans l'autre sens. Parce que moi, j'y ai passé un été, enfin 2 mois entiers, parce que donc j'avais de la famille qui y travaillait.
D'accord.
Et donc au Gabon, donc à Libreville, Port-Gentil. Ouais. Et c'est vrai que c'était vraiment une autre réalité. Après, donc, on était vraiment dans la jungle. Et c'est vrai que c'était un choc assez, assez rude. Donc, pour moi, petit Marseillais, on va dire, qui arrivait de ma ville.
D'accord, bah ouais, j'en doute pas. Moi-même, quand je suis retournée, c'était comme revenir pour la première fois dans un pays. Oui et non, d'ailleurs, mais dans le sens où je découvrais vraiment l'envers du décor. La réalité sociale, politique, enfin, ça que je n'ai jamais cessé d'en entendre parler puisque ma famille est quand même gabonaise, et aussi de retrouver justement ce qu'il me, enfin, comme c'est, j'ai cette éducation là, de retrouver ça à grande échelle, quoi. L'humour, les gens, voilà, quoi. Donc je me rendais pas compte à quel point ça m'a influencé, m'a marqué, alors que je suis en France depuis tellement longtemps, et finalement que si, c'est quelque chose qui est quand même à l'intérieur, quoi. Voilà.
Concernant Sabine, justement, vous dites que vous ne revendiquez pas de message particulier, mais vous l'avez écrit dans quel objectif, pour vous, pour le lecteur?
C'est pas que j'ai dit que je ne revendiquais pas de message particulier, mais que je ne voulais pas, parce que très vite on a voulu me cataloguer, enfin pas cataloguer, mais c'était genre un livre un peu sur l'Afrique, quoi. Alors que je suis certainement pas, surtout pas qu'on fasse ça. Si je faisais un livre sur l'Afrique, ça n'aurait rien à voir avec ça. Ce serait pas de ça que je parle, enfin je parlerai pas de l'Afrique en ces termes là et surtout c'est beaucoup plus complexe que, enfin, dès qu'on voit des formes un peu, enfin je reprends des choses, je vole même des symboles, c'est-à-dire les masques, le rapport à l'ancêtre, quelque chose qui existe, mais dès qu'on voit ça, du coup on a envie d'en faire quelque chose un peu tribal ou quoi, et certainement pas, je veux vraiment pas que ça soit catalogué là-dedans. Après, je crois que vraiment ce livre, c'est. J'espère qu'en tout cas ce propos-là universel, c'est ce passage un peu étrange entre l'enfance et l'âge adulte, qui a été fait 1 milliard de fois, que je fais moi à la lumière de ma propre histoire. Donc le fait d'être dans un cocon, le cocon de l'enfance, et ces enfants-là sortent de ce cocon-là, qui est donc un. Ils sont dans un village où ils n'ont jamais vu l'extérieur, leur grand-mère, enfin la plus vieille dame du village, meurt, et. Ayant perdu ça, il décide de partir et en sortant de ce monde-là, il découvre, il rencontre des gens et voilà. Après on y trouve un peu ce qu'on veut. Mais comme c'est un livre qui mélangeait des contes et de la bande dessinée, ça se lit pas non plus en un bloc. C'est vraiment des petits bouts d'histoire, des petits bouts d'ambiance, d'émotion. Et voilà. C'est un peu le bazar, quoi.
Ça s'est passé de cette façon-là, justement, vraiment, par petites tronçons, par inspiration successive.
Ça a été quand même assez comme ça, ouais. J'avais une ligne directrice, l'histoire, un peu dans ma tête, mais comme à faire, parce qu'on m'a laissé carte blanche pour le faire, et que du coup, je suis partie sur un format très genre 150 pages. C'est mon premier livre. Je sais pas, faut saigner les veines, mettre tout dedans. Du coup, ça a été quelque chose de très lourd à porter, en fait. Mais du coup, j'y ai mis aussi beaucoup de choses, je crois. Et voilà, je crois qu'il y a peut-être un côté un peu bazar dedans. Mais très bizarrement, j'ai été incapable de le lire là pendant un an, de l'ouvrir, de le regarder. Et là, dernièrement, j'ai un peu lu, regardé un peu comme ça, de hop, je suis bon, bah, ça va. C'est très maladroit, mais c'est quand même. Voilà, ce que j'ai voulu dire est dedans, quand même, je crois. Voilà.
Pour finir, quelle est ta dernière découverte? Alors, tu nous disais que tu n'utilisais pas beaucoup de bande dessinée, mais une dernière découverte BD.
Dernière découverte BD.
Ou autre chose, hein.
C'est vrai que la BD m'influence pas tant que ça dernièrement. C'est assez terrible, hein, mais je sais jamais répondre à cette question. Il y a l'an dernier le bouquin de Julie Marot, Le bleu est une couleur chaude, c'est une BD que j'ai trouvé vraiment superbe. D'ailleurs qui va être adaptée en film là.
Ah ouais.
Que vraiment j'ai adoré. Voilà, je suis désolée. Pourtant, j'en lis, hein, mais c'est qu'à chaque fois qu'on me pose des questions sur des références, c'est un peu comme quand on demande des dates historiques, quoi. C'est genre.
Oh. Oui. Ça. C'est un spécialiste en face.
Ouais. Je suis très nulle à ça. Qu'est-ce que. Ouais, voilà.
C'est parti.
Allez, vas-y, tirez. On t'écoute, Isaac. Allez.
Tu comptes me rendre le micro ?
Merci Thio de m'avoir si gentiment prêté le micro au poilu jaune. Donc Miami Hindou, que l'on a donc rencontré au festival de Calanqué des Bulles avec Thio. En fait, je suis tombé sur son bouquin et il y a eu une espèce de flash sur le côté graphique, sur le côté sur son dessin, sur ce qu'elle produit. Et donc, il fallait absolument que je me procure cette BD et qu'on aille la voir. On en a profité du coup assez rapidement pour faire notre première interview.
Alors, de quoi ça parle Sabine ?
Alors, de quoi parle Sabine ?
Deuxième
interview, c'est vrai. De quoi parle Sabine ? C'est la quête d'identité d'une petite fille dont la grand-mère décède. Dans un village au fin fond de la forêt africaine et qui va partir en quête d'identité en direction de la grande ville, totalement empreinte des histoires et légendes racontées par sa grand-mère, les vieilles histoires de, on va dire, chamaniques, des vieilles histoires de légendes africaines racontées donc par sa grand-mère, mais aussi par les autres vieux du village, même si sa grand-mère était la plus ancienne du village, donc avec un statut un petit peu particulier. Elle est donc dans cette quête d'identité, du début à la fin du livre, avec quand même un chapitrage que l'on ressent malgré tout. Le livre est assez tranché, je trouve en tout cas, dans l'histoire, par les lieux.
Il y a aussi le côté technique, les changements de technique qui chapitrent pas mal.
Alors, les changements de technique, ouais. C'est extrêmement riche. Voilà. C'est-à-dire que quand on a ce livre en main, si on devait faire comme d'habitude et définir le dessin, comment faire pour mettre un mot ou deux mots sur ce livre ? C'est juste impossible.
Moi, je l'ai fait, j'ai mis graphique.
Dessin.
C'est du dessin très dessiné.
C'est du joli dessin. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau du dessin de définir ce qu'elle fait. Il y a du noir blanc, il y a de la couleur, il y a du très fin, il y a du très épais. Il y a des choses qui sont très japonisantes. Il y a des choses qui sont très africaines.
Et puis il y a des choses qui ne sont pas de la BD.
Il y a des choses qui ne sont pas du tout de la BD.
Qui sont de l'illustration et du texte.
On est dans l'illustration, on est presque dans du scrapbooking à certains moments. Moi, j'ai vraiment adhéré parce qu'on est dans un voyage onirique du début à la fin.
Même sur le dessin, il y a des moments, moi, ça me fait penser à du Burton ou à du Dave McKean aussi.
Dave McKean, ouais. Moi, j'ai beaucoup vu Dave McKean.
Qui sont quand même très, très particuliers. Vraiment dans
tous les trucs en noir. J'ai pensé à Dave McKean, ses côtés très déstructurés. Du Dave McKean en plus poétique, en moins sombre, moins torturé, on va dire.
Oui, c'est très très poétique. Y a des, enfin, là aussi, on retrouve des influences japonisantes avec l'idée du poisson qui permet
aussi,
de rentrer dans le rêve, mais aussi des symboles, on va dire, l'arbre. La forêt est très présente. On est dans quelque chose de très ancré dans la nature, dans le sol, dans les traditions, dans la durée, dans le temps, dans l'histoire. C'est vraiment passionnant du début à la fin. Par contre, comme tout voyage, ça demande du temps. C'est pas un livre qu'on prend et qu'on va éplucher comme ça dans l'après-midi.
C'est un grand format. Alors déjà, c'est un format carré. Enfin, un grand format, c'est un format épais.
C'est un format carré et qui fait de combien de pages, Thio, s'il te plaît ?
200 et quelques.
Ouais.
150, 160 pages.
Ce papier est épais.
Voilà. Mais chaque page est extrêmement dense.
Oui, puis c'est vrai
aussi au niveau du texte qu'au niveau du dessin.
Puis du fait que ce soit pas que de la bande dessinée, qu'il y ait des passages qui sont plus littéraire, enfin on se rapproche du conte, on a du conte illustré.
Du conte, de la poésie,
Moi c'est vrai que j'ai trouvé ça très sympathique. Moi il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'évolution du côté, plus on se rapproche de la cité, les rencontres avec les gens, on sent une vraie évolution, une vraie progression des personnages qui perdent leur innocence au fur et à mesure qu'ils avancent. et on a l'impression qu'ils ont besoin de perdre cette innocence pour avancer. Je trouvais ça assez dur, en fin de compte, comme conte.
C'est très très dur. Moi, sur certains aspects, ça m'aurait fait penser à du Miyazaki quand on a ces groupes d'enfants qui se rencontrent et qui évoluent, qui apprennent malheureusement par la douleur, par les épreuves, etc. Avec là encore une fois l'empreinte des traditions, des légendes, de la grand-mère, qui reste là en filigrane, plus qu'en filigrane même.
Oui.
Mais voilà. Donc on est dans cette quête initiatique. Alors maintenant, pour parler de Maya Mindu. C'est quelqu'un qui est vraiment très 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 sympathique, qui a été, malgré sa timidité au micro, qui a essayé vraiment de faire passer ce qu'elle avait à nous dire par rapport à cet album-là ou par rapport à sa personnalité. Mais elle s'est sentie malgré tout un petit peu plus à l'aise une fois que le micro était passé. Alors peut-être parce que la confiance était un petit peu plus établie aussi entre nous, le dialogue était peut-être un petit peu plus établi entre nous. Voilà, en tout cas, elle a essayé de livrer ce qu'elle avait à nous dire. Donc, elle est d'origine gabonaise, elle a vécu de longues années en Afrique, et puis ensuite elle est partie en voyage à travers le monde, principalement en Afrique noire et au Japon. Que je ne dise pas de bêtises.
Cambodge.
Et donc c'est quelqu'un qui est, au-delà de la partie bande dessinée et raconter des histoires, qui est très attiré par l'aspect graphique de la chose. Et donc elle nous explique.
C'est plus une artiste contemporaine qui a utilisé la bande dessinée comme média pour un message.
Elle a eu la chance qu'on lui propose. Voilà, tu as droit à tu as droit de raconter ce que tu veux dans le nombre de pages que tu veux, comme tu en as envie. Sans ça, nul doute que une personne de la maison d'édition a dû tomber sur ses créations graphiques.
Barbara Canepa. Là, je vais y aller sur le côté un petit peu éditorial. Je pense que c'est Barbara Canepa qui a monté avec Clotilde Vue cette collection. C'est chez Soleil. Hein.
Oui.
Ça s'appelle Vénus Déa, la collection. The Art Pop Label, c'est comme ça qui est surnommé. C'est Barbara Canepa qui co-dirige cette collection. Barbara Canepa, vous la connaissez, c'est Skydoll. Et je crois qu'elle avait fait Witch aussi avec Barbucci avant en Italie, et qui gère cette collection là et gère aussi l'autre collection, c'est Soleil Métamorphose je crois que ça s'appelle, qui sont des collections je dirais anti-soleil, c'est à dire que quand on pense soleil on pense heroic fantasy, on pense humour potache, le truc rigolo, l'enfeuse et compagnie, moment pas prise de tête, très léger,
très BD, de la
BD sympa, tout public, où on se prend pas la tête, et là on est plus sur une approche très artistique, très poétique, arty, tu vois, ils art pop, je trouve, ils le disent, ça va bien, c'est un côté très ça place dans du musée d'ailleurs, Rencontre du 9e art, pas cette année mais l'an dernier, donc à Aix, Maya Mindu était mise en avant, il y avait une exposition de ses travaux.
Oui, ben à la fin du bouquin d'ailleurs on nous explique un tout petit peu ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait, et elle expose régulièrement à travers le monde, donc là il parle de Tokyo, Paris, Rome, voilà, enfin
c'est une bonne ville.
Oui, voilà, c'est toujours mieux que Conflans-Sainte-Honorine, quoi.
Tu as exposé à Conflans-Sainte-Honorine ?
J'envisage de le faire, oui. C'est un grand rêve dans la vie. Bref. Donc, Maya Mindu nous a un petit peu parlé de comment est-ce qu'elle travaillait pour cette création-là, parce que l'air de rien, si je me mets 2 minutes à sa place pour créer ce livre-là, ça me semble très compliqué. Je ne sais pas par quel bout prendre la chose au niveau de la création. Et donc, en fait, elle avait ses sensations, ses sentiments, son vécu, qu'elle voulait en partie retranscrire là-dedans, parce que c'est pas totalement, c'est pas autobiographique non plus. Et donc elle s'est laissée porter, elle a fait du dessin automatique, elle a beaucoup fonctionné comme ça. Ça se ressent d'ailleurs dans ses dessins, on est vraiment dans, pour ceux qui le faisaient quand ils étaient au lycée dans un coin de page, etc. Bon là c'est en grand format et en version artistique avec du talent, désolé pour ceux qui faisaient ça.
C'est pas sympa quoi.
C'est pas très sympa, je sais Pierre. Et donc voilà, elle nous a expliqué qu'elle fonctionnait beaucoup par ce dessin automatique qui lui permet justement de faire sortir ses sentiments et d'exprimer ensuite la trame de l'histoire tout au long de ces 180 pages quoi.
En tout cas, bon, on n'a pas entendu Thio. Qu'as-tu pensé, toi, de Savine ? Parce que tu l'as acheté aussi.
Moi, j'ai mis que c'était quand même, enfin voilà, c'est un conte initiatique pour moi. Ça te, moi en tout cas, je l'ai vécu comme une sorte de d'histoire, voilà, qui te permet de passer de l'enfance à l'âge adulte, quoi.
Ouais, mais c'est dur, hein, comme passage.
C'est oui, mais voilà, ouais, enfin, je crois même dans une des cases, t'as une petite phrase qui est la vie est méchante, mais elle chante. Voilà, c'était une petite phrase. Ouais,
la vie, la vie est méchante, mais chante.
Méchante, voilà.
Espace entre mais et chante.
Voilà, et donc du coup j'ai trouvé que voilà, c'est un petit peu ça, mais c'est un très beau bouquin dans une très jolie édition.
C'est un bouquin qui se lit autant qu'il se regarde, je crois.
C'est voilà, mais par contre il faut comme disait Isaac, faut pas se dire tiens c'est bon, je vais bouquiner deux minutes, je lis un truc. Non, il faut je pense vraiment prendre le temps de le lire dans le sens le temps de lecture. Et ne pas se dire, je vais en lire 5 minutes et je reviendrai plus tard dessus. Non, il faut mieux en lire, peut-être se prendre un bon quart d'heure, 20 minutes, quoi. Au moins, minimum, pour bien en profiter. Parce que c'est bluffant de détails et d'idées que ça ne fait jamais dans la tête, en tout cas.
Et puis, voilà, comme je le disais un peu loin du micro, ça se relit, ça se re-regarde. Quand on est en cours de lecture, ne pas hésiter à revenir quelques pages en arrière parce que on a besoin de se replonger dans le rêve pour poursuivre le voyage. On est vraiment embarqué là-dedans et il faut du temps. Voilà, faut prendre du temps pour vraiment rentrer là-dedans. Du très grand art. Voilà, c'est bien que ce soit une jeune auteure, elle est née en 84. Il y a un talent fou, il y a vraiment c'est une véritable artiste.
Voilà. Bon, on attendra la suite de ses productions en espérant qu'elle continue dans la BD, parce qu'apparemment elle a plus d'une corde à son arc.
Elle a plus d'une corde à son arc, oui.
Hors sujet cinéma. Alors les films sont sortis il y a un moment, vous les avez peut-être déjà vus. Je pense que celui dont va parler Isaac sera encore en ligne. On va être dans les super-héros, hein, c'est l'été, on sort tous les films de super-héros autant que possible. Je vais parler de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, non pas 4. The Amazing Spider-Man, c'est un reboot, c'est un re-numéro 1, réalisé par Mark Webb. Un nom prédestiné, mais tous les journalistes ont déjà fait la blague, donc on va éviter de s'attarder dessus. Que dire sur ce Spider-Man qui n'a pas été dit ? Pas grand-chose. Le film est bien foutu, sympathique en soi, même s'il a quelques défauts. Alors bien sûr, c'est la veine sombre qui est à la mode grâce à Christopher Nolan et son Batman. Ils ont décidé d'aller sur ce côté-là. Ce qui est réussi... Les lance-toiles mécaniques, franchement, ça fait plaisir qu'il ait re des lance-toiles mécaniques, même si j'avoue que la façon dont il se procure le fil et le fait que ça tient, il arrive à faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de fils, je sais pas trop comment, c'est hallucinant. Moi, ça m'a plu, en tout cas, qu'on retrouve ce côté-là. L'autre truc super sympa, c'est le fait qu'il fait des blagues pendant qu'il se bat. Il y a un petit combat où il refait des blagues et où il vanne ses adversaires. Bah, Spider-Man,
des splash, des paffs, des bangs.
Non, mais tu sais, Spider-Man, quand il se bat, en général, il balance des vannes non-stop à ses ennemis, etc. Et ça, c'était juste sur une scène, c'était bien foutu. La mise en scène est jolie, sans pète. Bon, par contre, il y a des incohérences scénaristiques un peu surprenantes. Ils ont pris un beau gosse pour faire Spider-Man, donc toutes les deux minutes, il enlève son masque, histoire qu'on voit que c'est un gosse bunkable qu'ils ont embauché.
Yeah.
Ça fait un peu exagéré.
Il est censé être un petit peu moche quand même. Hein.
Ouais, mais là non, là justement, Spider-Man, tu vois, c'est pas lui qui se fait éclater la gueule par Flash Thompson qui se fout de la gueule. Lui, c'est lui qui va voir Flash Thompson pour dire arrête d'embêter le jeune.
Tu vois, oui, voilà.
Tu vois, c'est un petit peu. Maintenant, il fait du skate, il est cool. Peter Parker est plus le loser de balle. Si à un moment il te montre que c'est un loser, il y a une fille qui fait est-ce que tu voudrais prendre rendez-vous avec moi parce que j'aimerais que tu fasses des photos de moi et de mon copain, tu vois. Enfin, genre, voilà, parce qu'il est photographe,
ouais,
bien sûr.
Bref, il fait la cinquième bourre du carrosse.
Voilà, mais vous, super la loose. Et l'autre truc, voilà, c'est les raccourcis scénaristiques un petit peu hallucinants, genre dans le labo, le méchant va utiliser la super arme qui va détruire le monde. Tu y es, fabrique un antidote. Et si tu détruisais la super arme qui va détruire le monde plutôt que de fabriquer cet antidote à la con ? Voilà, en gros des trucs. Des fois, tu dis mais ils sont débiles alors qu'ils sont censés être géniaux tout autant qu'ils sont. Spider-Man, un moment sympathique qui vaut le coup d'être vu au cinéma parce que ça fait paf paf dans tous les sens. Voilà. À toi pour nous parler de The Dark Knight Rises,
magnifique, encore du Christopher Nolan, encore du dark Batman, et donc là on est sur la fin, de ce Dark Batman qui a donc disparu pendant 8 ans suite au décès de Double Face.
Oui. Harvey Dent.
Harvey Dent, qui est donc dès le départ, hein, scène d'introduction, c'est une cérémonie hommage à Harvey Dent pour l'anniversaire de sa mort. La loi Dent est passée, les prisons sont bondées, bref, tout va bien. On n'a plus besoin de Batman, globalement. Ce qui tombe bien, puisque Batman, du coup, est un gros méchant, hein, puisqu'il a pris à son compte la responsabilité des divers décès, explosions, meurtres qui ont eu lieu dans le Dark Knight. Et donc, on retrouve un Bruce Wayne un petit peu amoché, quand même. Le Bruce Wayne qui participait de temps en temps au gala, qui faisait le beau gosse et qui présentait bien pour Wayne Industries, a totalement disparu. Il s'est transformé en vieil acariâtre reclus qui marche avec une canne, qui va voir des toubibs qui lui expliquent qu'il n'a plus de cartilage, que les os se touchent et qu'il est au bout du rouleau, quoi, globalement.
Ouais, c'est le Dark Knight de Miller, là.
Ah oui, voilà, on est le Dark Knight au bout du rouleau. Et donc, il en arrive quand même à se séparer de son majordome. Et là, franchement, il y a la...
Là, tu attends, c'est quoi ce spoil que tu viens de nous faire?
Non, c'est pas un vrai spoil, mais c'est la séquence émotion.
C'est quoi? C'est pas un spoil, ça? Mais tu te fous de notre gueule.
Attends, gros, je suis juste en train d'écouter, parce que moi, du coup, j'ai vu aucun des deux films. Et là, lui, il me balance ça comme... Alfred se casse, quoi. Non, mais oh...
Mais c'est oui.
Bon, on coupera au montage.
Ouais, bravo. Bon, en gros, le film, il est bien.
Le film est juste génial, il dure 2h44 et en fait ça passe comme une lettre à la poste. Ce qu'on pourrait regretter, c'est qu'on n'a pas de moment de forte émotion. Voilà. Ouais. C'est pas un manque de rythme, mais parce qu'on est toujours très haut, on est toujours dans le très bien, mais on est, à force d'être dans le très bien, il n'y a pas le sommet magnifique en plein milieu. Quoi. Mais
c'est pas l'apex, le truc.
C'est ça, mais il y a 2h44... excellent, on passe un excellent moment, c'est extrêmement bien joué, quelques fautes de raccord bien évidemment.
Tu dis ça parce que t'as vu un faux raccord et que t'as été
content. J'en ai pas vu qu'un de faux raccord et puis ils ont eu la lourdeur de bien insister dessus. Donc, mais sinon, c'est juste génial. Les acteurs sont magnifiques, la bande son est magnifique.
James Horner.
Oui. Christian Bale, toujours au top. Marion Cotillard, bien dedans également.
Oui, parce que Marion Cotillard, tout le monde avait très très peur d'elle. Hein. T'es pas un anti-Cotillard, toi, de toute façon.
Je suis... Sans être anti-Cotillard, je suis pas un pro-Cotillard.
D'accord.
Et là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Et on a quand même une divine Selina Kyle. Jouée par, bien évidemment, le nom m'échappe là tout de suite.
Elle, ah oui, bien sûr.
Elle, bien sûr. Anne Hathaway. Anne Hathaway posée délicatement en Catwoman posée sur la
bon, on va s'arrêter avant
sur la motobat. J'aime beaucoup les combinaisons en latex noir.
T'as aimé
portées par Anne Hathaway, je précise.
T'as aimé Avenger aussi.
Oui. D'ailleurs, rumeur ou pas, il parlait justement donc que la suite ça pourrait être une nouvelle Catwoman en fait avec Anne Hathaway.
Ouais, ouais.
Rumeur, voilà, circulant ou pas.
Ça fait très rumeur, c'est peut-être parce que le personnage a plu, ouais, je sais pas.
Ben, en tout cas, on met en place quand même les bases de Robin.
Ah, ça c'est un truc intéressant.
Donc voilà, ouais. Les choses se terminent comme elles doivent se terminer puisqu'on est sur une fin de cycle, mais on met en place quand même, on fait ressortir du chapeau Catwoman, mais surtout on met en place un Robin plausible.
D'accord. Bon, même si ces derniers temps, ils ont s'arrangé pour que Robin redevienne à peu près plausible dans les derniers trucs. Okay. Merci pour tout. Je crois qu'on en a fini. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, à nous soutenir sur iTunes, en nous mettant des petites étoiles et des commentaires pour dire que vous nous aimez ou que vous venez de détester. Faites comme Xavier Guibert qui régulièrement nous fait des commentaires pour nous dire que là on a dit telle connerie, là on a fait une erreur, etc. Parce que c'est très appréciable et que ça veut dire que vous nous écoutez aussi. Et que j'aime bien qu'on me dise quand j'ai fait une connerie. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission.
Et allez voir ce que fait Maya Mindou, c'est juste magnifique.
Ok, le mot de la fin, Thio. Le mot de la fin, Thio. Le mot de la fin, Thio. Oh, 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 coup de micro dans la tête.
Au revoir.
Au revoir, ciao.
Et bonne soirée.
Miami Hindou et vous écoutez La Voix des Bulles.